Le bulletin du handicap.
Bonjour, ici Christiane Campagnan et voici vos manchettes en ce mercredi 26 août. Pétition pour le financement des organismes de défense collective des droits. Recherche sur la SLA, une découverte grâce à l'Ice Bucket Challenge. Premier parc accessible aux personnes handicapées à Kénogami-Saguenay. Activité bénéfice d'Autisme Montréal. Une agence de voyage britannique jumelle des voyageurs voyants et non-voyants. Et après les Jeux Parapanam, Hélène Allard pense à Rio. Le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain invite ses membres, bénévoles, partenaires et alliés à signer la pétition pour une plus grande reconnaissance et un meilleur financement de la défense collective des droits, initiée par le regroupement des organismes en défense collective des droits, le RODCD. Les organismes de défense collective des droits mènent des luttes pour faire reconnaître les droits démocratiques, économiques, sociaux et culturels, tels que le droit à la justice, à l'égalité, à la santé, à l'éducation, au logement, à un revenu suffisant ou à l'alimentation. Ils font aussi progresser les lois dans différents domaines comme l'environnement et la consommation. À l'heure des politiques d'austérité, le rôle des organismes de défense collective des droits est primordial, mais ils sont sous-financés et sont eux-mêmes menacés de coupures. C'est ainsi que nous, citoyens et citoyennes du Québec, demandons au gouvernement du Québec de reconnaître la contribution essentielle des organismes en défense collective des droits. 1. En leur accordant un rehaussement de 40 millions de leur financement permettant ainsi le financement de nouveaux groupes. 2. En indexant annuellement leurs subventions. 3. En leur accordant des sommes supplémentaires pour couvrir les frais liés à la pleine participation des personnes ayant des limitations fonctionnelles. Et 4. En signant avec eux des ententes de financement d'une durée minimale de 3 ans. La pétition sera déposée à l'Assemblée nationale du Québec au mois de septembre. Vous pouvez signer la pétition en ligne au pétition-24.net/RODCD. Recherche sur la SLA, une découverte grâce à l'Ice Bucket Challenge. Elle intrigue les scientifiques depuis maintenant 10 ans. Son nom? TDP43. Une protéine qui a un drôle de comportement chez les patients atteints de la SLA. La TDP43 sort du noyau des cellules des malades et s'accumule en amas. Or, des chercheurs de la Johns Hopkins School of Medicine à Baltimore viennent d'éclaircir un premier mystère, soit la fonction même de la protéine. Dans une étude publiée ce mois-ci dans la prestigieuse revue Science, les chercheurs montrent que la TDP43 empêche les cellules d'utiliser de la mauvaise information génétique lorsqu'elles fabriquent des protéines. Résultat, sans cette protéine, les cellules deviennent dysfonctionnelles et meurent rapidement. Si nous sommes capables d'imiter le rôle de la TDP43 dans les neurones des patients atteints de la SLA, il y a de bonnes chances qu'on puisse ralentir la progression de la maladie, a commenté l'auteur principal de l'étude, Jonathan Lynn, dans un message publié sur le site de médias sociaux Reddit. Pierre Drapeau, directeur du département de pathologie et biologie cellulaire de l'Université de Montréal, avertit cependant qu'il y a un monde entre le fait de manipuler des cellules en laboratoire et celui de concevoir des médicaments qui produisent des résultats sur de vrais patients. Le chercheur Jonathan Ling a affirmé haut et fort que la nouvelle découverte découle directement des fonds récoltés par le Ice Bucket Challenge, cette campagne de financement pour laquelle des gens se lancent un défi de recevoir un seau d'eau glacée sur la tête. Le défi a permis d'amasser 115 millions US l'an dernier. Pierre Drapeau de l'Université de Montréal affirme que les budgets de recherche sur la sclérose latérale amyotique ont été multipliés par 10 depuis le lancement de la campagne. Kénogami, au Saguenay, aura bientôt son premier parc entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. 300 000 $ ont été investis par la Ville de Saguenay pour l'aménagement d'installations adaptées au parc J. Alcide Redd. Selon le maire de Saguenay, Jean Tremblay, Claude Tremblay, conseiller municipal et membre du comité consultatif d'urbanisme de Jonquière, nous est arrivé avec un projet vraiment audacieux. Le parc serait complètement refait et rouvrira ses portes dans quelques semaines et sera désormais accessible aux personnes handicapées. Outre de nombreux modules, les voies d'accès seront également retravaillées de façon à rendre la circulation au cœur du parc plus aisée. La Fondation d'autisme Montréal vous invite à la 18e édition de son activité bénéfice ayant lieu le 15 septembre prochain au club de golf Val-des-Lacs de Sainte-Sophie. Une formule tout inclus qui comprend droit de jeu, voiturette, brunch, souper, remise de prix de participation et tirage de nombreux prix de présence. Vous aurez aussi l'occasion de participer à l'encan silencieux pour lequel de généreux donateurs et commanditaires ont donné plusieurs lots de qualité. Pour de plus amples informations ou pour finaliser votre inscription, communiquez au 514-508-3398 ou à mpatrie@fondationautisme.com. Pour certains globetrotteurs, voyage ne rime pas forcément avec paysage. Des aveugles ont aussi droit à l'aventure grâce à des périples conçus autour des odeurs, des textures, des sons et des goûts. En Inde, où nous les avons rencontrés, c'est un article paru dans la presse, ils font tourner bien des têtes. Mais pourquoi voyager si l'on ne peut pas admirer des paysages? Amar Latif, fondateur de Travel Eyes, une agence britannique et lui-même aveugle, explique « On utilise davantage les autres sens, par exemple l'ouïe à cause des cloches d'église ou le bruit des charrettes. Quand on descend de l'avion en Afrique, on ressent toute cette chaleur et ses odeurs. Quand on marche sur le Machu Picchu, on touche les montagnes. Et bien sûr le goût, car il faut goûter le vin, n'est-ce pas? » Au programme du périple en Inde, cours de yoga, promenade dans les plantations d'épices, soirée musicale, balade à dos d'éléphant, croisière en bateau et bien sûr de bons repas. Rien ne semble être à l'épreuve de ces voyageurs, si bien que l'entreprise offre même des voyages de ski. On installe une radio sur les voyants et les malvoyants n'ont alors qu'à suivre la musique de la personne avec laquelle ils sont jumelés, résume tout bonnement Amar. Car chaque jour, les malvoyants sont jumelés avec un voyant différent qui n'est pas bénévole, mais bien vacancier, équipé son voyage moitié prix. Devenir les yeux d'un aveugle le temps d'un périple, c'est le choix de vacances de Danny Bergman, technicien informatique dans la quarantaine, a fait pour la deuxième fois. Les gens me demandent toujours si c'est difficile et la réponse est catégoriquement non. Tout le monde ici est égal, à un point tel que j'oublie souvent que je suis avec des malvoyants et que je leur dis « Ah, regarde le palmier là-bas ». Il a dit remarquer plus de détails et mieux se souvenir du voyage. « Ça ouvre mes yeux », résume-t-il. L'entreprise Travel Eyes, dont le siège social est en Angleterre, offre des départs à partir de plusieurs pays, incluant le Canada. Du 7 au 14 août dernier, Hélène Allard de Saint-Eustache a dribblé fort pour l'équipe senior canadienne de basketball en fauteuil roulant aux Jeux parapanaméricains de Toronto. Ses efforts ont contribué à la présence en basketball en fauteuil roulant aux prochains Jeux paralympiques de Rio de Janeiro en 2016. Alors son nouvel objectif personnel, rien de moins qu'un titre paralympique. C'est avec 4 victoires et une défaite que les basketteuses canadiennes ont terminé leur fiche des Jeux à Toronto. Elles ont obtenu la médaille d'argent à l'issue de la finale contre les Américaines le 14 août. Selon Hélène, ses coéquipières ont pris dur leur défaite de 80-72 contre les États-Uniennes. « Au début, nous étions déçus d'avoir perdu le match en finale. De mon côté, j'ai vu cette médaille d'argent comme un pas de plus vers Rio qu'on fit l'athlète de 38 ans. La défaite contre les Américaines a mis en relief les points sur lesquels nous devons travailler, enchaîne-t-elle. Un match qui était également décisif en vue de Rio de Janeiro, puisqu'il déterminait les équipes nationales qui pourraient représenter les Amériques. Pour le moment, Hélène Allard cherche un appartement à Toronto en vue de s'y entraîner pour les 6 prochains mois, 6 jours sur 7, 6 heures par jour. Elle y résidera avec une coéquipière qui tentera également sa chance pour faire partie de l'équipe nationale en avril prochain. Pour l'Eustachoise, gageons qu'il s'agit encore là d'une autre étape, en vue d'atteindre de nouveaux sommets, voire un nouveau podium. Alors, c'était Christiane Campagna avec votre bulletin du handicap sur Canal M, la radio de Vues et Voix. Bonne journée à tous et à demain.